Mardi 6 mars 2018 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse avec vous pour les 90 prochaines minutes. François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis, mais ne vous en faites pas, elle sera de retour demain. En entrant au studio ce matin, je me faisais la réflexion que le 6 mars était une belle date puisque je suis arrivé et il faisait clair. C'était la première fois cette année. Mais y a-t-il d'autres manières de signaler le 6 mars au travers de l'histoire? C'est ce que nous apprend Jean-Sébastien Laliberté.
Et je commence cette chronique en vous faisant plaisir. Encore une fois, François, hier, je parlais de cette autorisation dans les années 1600 en Nouvelle-France de pouvoir produire de la bière. Et 6 mars 1900, c'était le décès de Gottlieb Delmer, Monsieur Delmer, qui est, je vous le donne en mille, l'inventeur de la motocyclette. Mm-hmm. Donc, je sais que je vous fais plaisir avec ces informations, encore une fois. Sinon, un 6
oui, c'est
mars...
c'est même la première victime.
6 mars 1634, la ville de York devient Toronto. 1853, l'opéra La Traviata de Verdi est présenté pour la première fois. 1857, la Cour suprême des États-Unis statue que les esclaves ne peuvent pas demander leur liberté en cour fédérale. 1869, le chimiste Dmitri Mendeleev présente sa classification périodique des éléments devant la Société de chimie de Russie. 1889, considérés obscènes, les romans d'Émile Zola sont interdits au Canada. 6 mars 1930, début de la vente d'aliments congelés. 1933, au lendemain d'élections truquées favorisant les nazis en Allemagne, on en parlait justement hier à cette même chronique, les Polonais occupent le port de Danzig. 1957, indépendance du Ghana, premier pays de l'Afrique noire à le faire. 6 mars 1965, abandon de la messe en latin, on peut enfin comprendre les mots qui se disent dans cette messe. 1990, pour la première fois depuis 70 ans, des citoyens soviétiques peuvent posséder des entreprises. Donc, communisme en plein déclin.
Et ils ne s'en sont pas privés, faut-il le dire.
1998, l'Ontario offre 4 millions de dollars aux trois survivantes des quintuplés Dionne, les jumelles Dionne, nées en mai 1934, pour les dédommager de l'exploitation touristique de leur enfance. 2001, toujours un 6 mars en Chine, 42 enfants de 8 et 9 ans forcés de fabriquer des pièces pyrotechniques périssent dans l'incendie de leur école. Et 2001, toujours le début de la fin pour Napster, logiciel de partage de musique en ligne qui fut fort populaire à l'époque, avec le blocage de contenu protégé par les droits d'auteur après moins d'un an d'activité. On se souvient possiblement, il y avait eu une sortie du groupe Metallica, entre autres, pour contrer ce logiciel de partage de musique illégal, faut-il le rappeler. Les naissances en ce 6 mars... Le peintre et sculpteur, architecte et poète, parce que ne faire qu'une seule de ces disciplines ne semblait pas l'occuper à temps plein.
Avez-vous déjà essayé de vivre de votre poésie?
Je dois admettre que non. Donc, la naissance en 1475 de Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange. Mm-hmm.
Ou le plâtrier, si vous avez un plafond d'église à faire peindre.
Je crois qu'il n'offre plus ses services, François, cependant. 1619, cette fois, naissance de l'écrivain français Savinien Cyrano de Bergerac. 1944, naissance de la soprano néo-zélandaise Kiri Tekanawa. Et 1928, la naissance du prix Nobel de la littérature, l'auteur de Cent ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez.
On aborde tout de suite les pages de la presse et je ne résiste pas au plaisir de vous faire part du clin d'œil de Stéphane Laporte, sa pensée du jour, si vous le voulez, qui fait manifestement suite à la nouvelle d'hier, voulant que les médecins touchaient des bonis de réunion, des bonis d'assemblée, etc. Eh bien, Stéphane Laporte dit « Tant qu'à faire, on devrait donner aux médecins une prime pour la guérison. » Idée révolutionnaire. Bon, hier, on vous parlait du Fucked Up, cette boisson alcoolisée qui a été retirée des tablettes. Excellent texte dans la presse d'Éric Pierre Champagne qui fait le point sur les autres produits du genre qui sont encore en marché, dont certains par le même producteur que celui du Fucked Up. Malheureusement, on ne lira pas ce texte-là puisque j'ai plutôt choisi le commentaire d'Ariane Kroll, qui est peut-être un peu plus proactif. « Bouge de là », signe-t-elle son article. Le mauvais exemple vient d'en haut. Santé Canada interdit la présence d'alcool dans les boissons énergisantes contenant de la caféine et les canettes doivent afficher la mention « ne pas mélanger avec de l'alcool ». Pourtant, la réglementation fédérale permet que des ingrédients contenant de la caféine, le guarana, le café, le cola, etc., soient ajoutés à certaines boissons alcoolisées. En principe, elles ne sont vendues qu'aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais leur marketing vise de toute évidence des personnes plus jeunes et celles-ci trouvent le moyen d'y avoir accès, rappelle le sénateur indépendant André Pratt dans une lettre envoyée à la ministre fédérale de la Santé dimanche. Le sénateur Pratt, comme l'organisme Éduc'alcool, demande à la ministre Ginette Petitpas-Taylor d'intervenir au plus vite. De fait, cette contradiction réglementaire est injustifiable. Que des produits classiques sans intérêt pour les mineurs, comme les liqueurs de café, soient offerts dans des magasins étroitement contrôlés comme ceux de la SAQ, passe encore. Mais permettre que des ingrédients comme le guarana puissent être ajoutés à des breuvages fortement alcoolisés, rappelant à tous égards, contenant, publicité, point de vente, accessibilité, ces boissons énergisantes dont raffolent les jeunes, c'est totalement irresponsable. Le mélange alcool-boisson énergisante est associé à un risque accru de beuverie, de conduite avec faculté affaiblie, de comportement sexuel à risque et de dépendance à l'alcool. Un cocktail particulièrement explosif pour des mineurs qui ne sont pas habitués à reconnaître ni à gérer les symptômes de l'ivresse. Selon les témoignages recueillis par la presse, la jeune Athéna Gervais, 14 ans, aurait bu juste avant sa disparition près de 2 canettes de boissons de marque Fucked Up, contenant chacune l'équivalent de 4 verres de vin. Le fabricant a renoncé à la production et le retrait de ses boissons de tous les points de vente est en cours. Tant mieux, mais ça ne suffit pas. La porte demeure grande ouverte à ces potions douteuses. Le fabricant de Fucked Up, rappelons-le, avait justifié le lancement de son produit par l'arrivée d'une marque américaine, Four Loko, dont la teneur en alcool était tout aussi extrême, sans toutefois contenir de caféine. Il ne s'agissait donc pas d'une réplique, mais d'une surenchère. Rappelons aussi que le Four Loko, comme d'autres marques vendues aux États-Unis, contenait de la caféine et du guarana jusqu'à ce que le fabricant retire ses ingrédients en 2010. Les pressions de la Food and Drug Administration et l'indignation causée par de multiples accidents, dont certains mortels associés à la consommation de tels breuvages, ont eu raison des ingrédients stimulants. Les risques étaient donc déjà largement documentés. Ces boissons, qui amènent les jeunes à descendre une quantité phénoménale d'alcool en un rien de temps, sont problématiques même sans caféine. Des mineurs amenés aux urgences dans un coma éthylique ont été signalés dans plusieurs hôpitaux de la province. Le directeur national de Santé publique du Québec doit déposer un rapport à la ministre déléguée à la Santé publique au cours des prochains jours. Il faudra voir ses recommandations, mais déjà, plusieurs éléments devraient interpeller le gouvernement. Interdire le mélange alcool-caféine ne suffit pas. Il faut s'interroger sur la pertinence de mettre de telles doses d'alcool à la portée des mineurs, dans des étalages promotionnels à si bas prix et dans des dépanneurs où le contrôle des achats et du vol sont loin d'être optimaux. On verra dans le rapport du coroner quel rôle ces boissons ont réellement joué dans la mort prématurée d'Athéna Gervais. Nul besoin, par contre, d'attendre jusque-là pour revoir la mise en marché de ces breuvages. On en sait déjà plus qu'assez sur leurs effets indésirables. À Paris, ces temps-ci, on parle beaucoup de francophonie, notamment hier, alors que le président français Emmanuel Macron disait que le bilinguisme était une bonne chose. Je me suis plutôt arrêté sur un texte où notre premier ministre à nous, Philippe Couillard, se penchait sur les dépenses de Michaël Jean. Le texte Francophonie, Couillard exige de Michaël Jean plus de rigueur. Philippe Couillard a réclamé lundi devant le président français Emmanuel Macron plus de transparence et de rigueur dans l'administration de Michaël Jean, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le premier ministre a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse après son premier entretien avec le président Macron au Palais de l'Élysée lundi matin. La France, le Canada et le Québec sont trois joueurs importants de la francophonie. Le mandat de Michaël Jean à la tête de l'Organisation internationale a été éclaboussé par diverses controverses. L'ex-gouverneur général a été critiqué pour ses dépenses somptuaires. Les journaux de Québecor avaient d'abord révélé que Mme Jean avait fait rénover au coût de 500 000 $ de fonds publics la résidence officielle qu'elle loue à Paris, en plus de se procurer un piano de 20 000 $. Également, le projet de croisière pour des jeunes francophones à bord d'un grand voilier a dû être renfloué et devait coûter des centaines de milliers de dollars à même les budgets de l'OIF, faute de commanditaires privés. Or, Philippe Couillard, devant son hôte à l'Élysée, a appelé à la fin de la récréation. Il a rappelé sa fierté de voir une Québécoise à la tête de l'organisation et il dit vouloir que son mandat soit un succès, mais exige désormais une meilleure reddition de comptes. Je réitère notre désir de voir davantage de rigueur et de transparence dans l'administration interne, a-t-il laissé savoir. En après-midi, M. Couillard a rendu visite à Mme Jean au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Le premier ministre a également rencontré le personnel de l'organisation. Les journalistes ont demandé à s'entretenir avec Mme Jean, mais son attaché de presse a indiqué qu'elle avait un horaire trop chargé. Stéphanie Gramont nous informe à propos d'une nouvelle arnaque sur Internet qui circule beaucoup actuellement. Mais en fait, il s'agit d'une arnaque bancaire. C'est sur le virement Interac. Les virements électroniques sont tellement plus pratiques, que ce soit pour transférer la paye hebdomadaire, partager une facture entre amis ou payer des petits comptes à gauche et à droite. Pas étonnant que les virements Interac enregistrent une croissance phénoménale. En 2017, il y a eu plus de 241 millions de transactions au Canada, soit une hausse de 52 % par rapport à l'année précédente. Malheureusement, les fraudeurs à l'imagination fertile ont déjà inventé des arnaques pour piéger les utilisateurs de virements électroniques. Hey, les jeunes et les moins jeunes, soyez sur vos gardes. Gabriel Roussin-Léveillé, 19 ans, s'est fait attraper en vendant son téléphone mobile à partir du site web de petite annonce Kijiji. L'acheteur lui avait proposé de payer la note de 850 $ par virement Interac. « Pas de problème », s'est dit le jeune homme. « Avec ce genre de transfert, la personne qui reçoit l'argent n'a qu'à fournir son numéro de téléphone ou son adresse courriel à l'expéditeur. Personne n'a accès aux données bancaires. La transaction est confirmée grâce à une question de sécurité préparée par l'expéditeur. » En utilisant ce mode de paiement, Gabriel ne pensait pas commettre une imprudence. Jamais il n'a cru qu'il pourrait être victime de fraude. Après avoir obtenu la confirmation que l'argent avait été transféré dans son compte, le jeune homme a donc remis en main propre son téléphone à l'acheteur, croyant que tout était réglé. Quelques jours plus tard, il a été bien surpris de constater que la banque avait gelé son compte bancaire. En se rendant à sa succursale de la Banque Royale, il a appris que l'acheteur de son téléphone l'avait payé en puisant l'argent dans le compte d'une autre personne qu'il avait piraté. Au départ, la banque a dit à Gabriel que les 850 $ seraient retirés de son compte. « Ça n'a aucun sens », s'est-il exclamé. « Je me suis fait frauder. La banque devrait être responsable. » Alors Gabriel a tenu son bout. Ça a été l'enfer. Au début, il disait que c'était ma faute, que c'était à moi de prendre mes précautions, raconte-t-il. Finalement, la banque a accepté de laisser l'argent dans son compte. Voilà la preuve qu'il vaut la peine de se battre, quitte à porter sa plainte devant l'ombudsman de la banque, dont le rôle est d'examiner les litiges des clients d'un œil plus détaché. Mais Gabriel n'est pas encore au bout de ses peines, car on lui interdit de faire ou de recevoir des virements électroniques jusqu'à la fin de ses jours. Pour retrouver le droit de faire des virements, la banque lui demande de fournir des preuves de la vente de son téléphone. Les documents seront envoyés à notre groupe de fraude qui va les examiner conjointement avec Interac, m'a expliqué le porte-parole de la Banque Royale, Denis Dubé. Le malheur, c'est que Gabriel n'a aucune facture de la transaction. Il avait simplement échangé des messages textes avec l'acheteur qu'il a effacé avant de lui remettre son téléphone. Il ne lui reste que l'annonce placée sur Kijiji et une capture d'écran de certains échanges avec l'acheteur. Espérons que cela sera suffisant pour faire plier la banque et Interac.
La vallée des réputations, Jean Leloup sur Canal M.
Et nous voici prêts à aborder le devoir. Et j'irai d'abord d'une courte analogie pour vous dire que si le gouvernement c'était une maison, on pourrait dire que l'éducation c'est le chauffage, ou plutôt que la santé c'est le chauffage, que l'éducation c'est l'éclairage. Eh bien, la justice, c'est la fondation. Et à cet égard-là, il faut noter que le classement de la justice québécoise est en descente au Canada. C'est assez inquiétant. Malheureusement, c'est le genre de choses dont on ne parle pas parce que ce n'est pas glamour. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde aime mieux faire sa cuisine que le mur de son solage. La justice québécoise perd des plumes dans un bilan annuel pan-canadien. Ça nous vient de la presse canadienne. Le système judiciaire canadien a bénéficié depuis un an d'une légère baisse de la criminalité et d'une hausse du financement de l'aide juridique, révèle une étude. Mais ces améliorations ont été éclipsées par une hausse des coûts, des délais plus longs et la surreprésentation chronique des Autochtones dans les prisons. Dans son deuxième bilan du système de justice pénale canadien, l'Institut McDonald-Laurier recommande au gouvernement d'investir davantage dans la collecte d'informations et dans l'analyse des données afin de mieux cibler ce qui, depuis trop longtemps, ne va pas. Le groupe de réflexion, établi à Ottawa, radiographie depuis 2016 le système judiciaire dans les provinces et territoires en tenant compte de facteurs comme l'équité, l'efficacité, les coûts, la sécurité publique et l'accès à la justice. En 2017, l'Ontario est passé de la 7e à la 4e place, alors que le Québec a reculé de 2 rangs, passant de la 4e à la 6e place. L'île du Prince-Édouard domine toujours le palmarès, fermé encore par le Manitoba. Le rapport de l'Institut note par ailleurs le taux toujours alarmant des crimes violents dans les territoires, 10 fois supérieur à celui de certaines provinces. De façon générale, la baisse du Québec dans le classement est notamment attribuable à des notes plus faibles au chapitre du soutien aux victimes, de l'accès à la justice et de l'efficacité du système judiciaire. Côté positif, l'Institut rappelle que le taux de crimes violents au Québec est l'un des plus faibles au pays et que le taux de crimes contre la propriété y est le plus bas. Ces taux sont d'ailleurs en forte baisse depuis 2012. Le taux de crimes violents classé y est aussi l'un des meilleurs de toutes les provinces, tout comme celui des défauts de comparaître. Par contre, le Québec affiche l'un des pires taux d'affaires classés du côté des crimes non violents et de loin le plus haut taux de personnes illégalement en liberté. Ces taux sont par ailleurs en croissance constante depuis 5 ans. Le citoyen québécois a en général l'impression que la police n'est pas très accessible et son opinion générale des policiers, du système judiciaire et des tribunaux se situe sous la moyenne canadienne. À l'échelle du pays, le rapport de l'Institut signale que la confiance de la population face au système judiciaire est la plus faible au Manitoba, en Colombie-Britannique et au Québec, et la plus haute au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Pour ce qui est de la police, les meilleurs scores sont observés en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, les plus faibles dans l'île du Prince-Édouard, en Colombie-Britannique et au Québec. Le taux d'incarcération des Autochtones est toujours très élevé partout au Canada, mais plus particulièrement au Manitoba, Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, note le rapport de l'Institut. Marco Fortier, avec Guillaume Levasseur, signe un texte fort intéressant sur qui sont les diplômés au Québec et à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Le taux de diplomation s'améliore, mais certains types d'élèves restent plus longtemps que d'autres sur les bancs d'école. Voici les faits saillants d'un rapport tout frais du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui met en lumière le défi lancinant du décrochage au Québec. D'abord, les bonnes nouvelles. Le taux de diplomation et de qualification augmente. Il s'établissait à 80,1% en 2015-2016. Mais attention, on calcule désormais ce taux 7 ans après le début des études secondaires, études qui durent normalement 5 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est plus long qu'auparavant de réussir son secondaire. Le parcours secondaire n'est plus linéaire comme dans le passé. Le chemin vers la réussite est plus sinueux. Si on calculait le taux de diplomation et de qualification après 5 ans d'études secondaires, il serait d'à peine 67,4%. Ça veut dire qu'un élève sur 3 n'a pas ce diplôme après avoir passé 5 ans à l'école secondaire. L'avez-vous remarqué? Le rapport du ministère parle de diplomation et de qualification. Certains élèves sont incapables d'obtenir un diplôme d'études secondaires, ou pas intéressés. Ils peuvent obtenir ce qu'on appelle une qualification. Il existe une dizaine de ces qualifications menant à une formation professionnelle. Les qualifications ne sont pas un diplôme d'études secondaires en bonne et due forme, mais viennent augmenter le taux de diplomation de 4,1 points de pourcentage. Des experts affirment que le calcul du taux de diplomation et de qualification est une façon de gonfler les chiffres pour permettre au gouvernement de bomber le torse. En calculant ce taux sur 7 ans d'études secondaires et non 5, on améliore aussi le taux de réussite. Les élèves des écoles privées réussissent beaucoup mieux que ceux du réseau public. Le taux de diplomation après 7 ans est de 93,1% au privé, 76,5% au public. Les élèves anglophones, taux de diplomation de 85%, restent plus longtemps que les francophones, taux de diplomation de 79,9% sur les bancs d'école. Les garçons continuent de décrocher davantage que les filles, mais l'écart se rétrécit. Les 3/4 des garçons, 75,8%, obtiennent leur diplôme après 7 ans, comparativement à 84,4% des filles. L'écart est de 8,6 points. L'année précédente, il se situait à un peu plus de 10 points. On le savait, mais les statistiques le confirment une fois de plus. Les élèves qui viennent d'une famille ou d'un quartier aisé réussissent beaucoup mieux que ceux issus d'un milieu pauvre. Le ministère établit un indice de défavorisation pour chacune des écoles primaires et secondaires. Les taux de diplomation et de qualification sont de 82,6 pour les milieux favorisés, de 77,4 pour les milieux intermédiaires et de 70,3 pour les milieux défavorisés. Près d'un élève sur cinq, 23,3, est décrit comme handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Cette proportion était de 17,5 cinq ans plus tôt. À peine la moitié, 51,8 de ces élèves, avaient un diplôme ou une qualification après 7 ans par rapport à 83,8 des autres élèves. On vous en parlait hier dans le devoir, les élèves non immigrants qui parlent le français réussissent moins bien que les immigrants de deuxième génération, nés au Québec de parents étrangers. Dans le réseau public, ils traînent de l'arrière par 6 points de pourcentage, taux de diplomation de 76 contre 82. C'est encore plus criant chez les garçons avec une différence de 9 points de pourcentage en faveur des immigrants de la deuxième génération. Dans les régions à majorité francophone, il n'est pas rare qu'un garçon sur quatre soit sans diplôme 7 ans après le début de ses études secondaires. Par exemple, les commissions scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais, du lac Abitibi, des Samar, des Chic-Chocs, de la moyenne côte nord de Sorel-Tracy, de la vallée des Tisserands, des Hautes-Rivières. Réaction du Canada aux propositions... à la mise en place de tarification sur l'acier et l'aluminium... Alena, le Canada rejette le marchandage de Donald Trump, ce dont nous parle Éric Desrosiers. La renégociation de l'Alena et le conflit qui se dessine dans l'acier et l'aluminium sont deux choses séparées, répond Ottawa à Donald Trump. La première doit continuer de faire l'objet d'échanges ouverts et constructifs. La deuxième ne se prête à aucune discussion. Et voilà qui termine déjà le devoir. On fait une courte pause et on se retrouve dans les pages du Journal de Montréal.
J'ai fréquenté successivement. Ils m'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, qui s'y présente en même temps. Moi comme un cap, je suis à mon modèle, et elle de moi. Moi je traîne dans les bars pour oublier jusqu'à mon nom. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore.
Qui reprenait ce succès de sa formation Possession Simple, un succès de 1992, donc Éric Goulet en solo comme un cave.
Jean-Marc Fournier accroche ses patins. Il ne sollicite pas un nouveau mandat cet automne. Pour vous en parler, j'aurais pu prendre n'importe quel journal au Québec. C'est quand même une pointure du gouvernement Couillard et du Parti libéral du Québec. J'ai choisi quand même le texte de Marc-André Gagnon dans le Journal de Montréal. Fournier annonce son retrait de la vie politique. Après quelques mois de suspense, le leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable des relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, a annoncé lundi après-midi son retrait de la vie politique. « Je crois que le tour de piste est fait, la boucle est bouclée », a déclaré le député libéral de Saint-Laurent en conférence de presse à l'Assemblée nationale. « Si on veut des nouveaux visages en politique, il faut qu'il y en ait qui quittent », a-t-il expliqué. Après la ministre de la Justice Stéphanie Vallée la semaine dernière, Jean-Marc Fournier devient le deuxième ministre libéral à annoncer qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections, et cela à un moment où le PLQ accuse un creux historique dans les intentions de vote. Honnêtement, les sondages n'ont pas grand-chose à y voir, assuré M. Fournier. Le ministre entend poursuivre son mandat jusqu'au prochain scrutin. « Pour l'instant, je reste, mais je ne reviens pas », a-t-il prévenu. Mais comme il l'a fait en 2008, en 2012 et en 2014, M. Fournier embarquera dans l'autobus de campagne du PLQ à titre de stratège et de conseiller du chef pour travailler à la réélection de Philippe Couillard au poste de premier ministre. « Ce sera ma quatrième campagne sur l'autobus », a dit M. Fournier. « Je ne fuis pas, je suis convaincu qu'on va gagner les prochaines élections », a-t-il ajouté. Celui qui a touché une première indemnité de départ de 145 000 $ en se retirant une première fois de la vie politique en 2008 confirme qu'il encaissera une fois de plus l'allocation de transition à laquelle il a droit. « Ça fait partie de nos conditions de travail », a justifié M. Fournier, en soulignant que d'autres députés péquistes ayant récemment annoncé leur départ feront de même. Élu pour la première fois en 1994 dans Châteauguay, M. Fournier avait pris une pause de la politique en 2008 avant de revenir en tant que ministre de la Justice puis comme député libéral de Saint-Laurent en 2010. En septembre dernier, M. Fournier s'était dit en réflexion sur son avenir politique, après avoir été éclaboussé par des allégations lancées par le syndicaliste Yves Francoeur, qui ont finalement été jugées non fondées par les enquêteurs. C'est sûr que ça fait partie de la réflexion, mais ce n'est pas le cœur, a-t-il indiqué à ce sujet lundi. Charles Traversy nous parle, lui, de marijuana et de festivals. Est-ce que c'est compatible? L'égalisation de la marijuana, les festivals et grands événements ont amorcé une réflexion. Alors que les festivals préparent leur programmation, des réflexions s'amorcent sur la consommation de la marijuana sur les différents sites, étant donné que la légalisation de cette drogue devrait en principe coïncider avec la tenue de plusieurs grands événements. Sera-t-il permis de consommer dans les rues où circulent des milliers de festivaliers? On ne pourra pas l'interdire partout. C'est présentement illégal et des fois, dans les festivals, il y a une odeur nauséabonde que je ne nommerai pas et que je ne personnaliserai pas, affirme la ministre Lucie Charlebois. Au sujet des festivals de musique, le gouvernement fédéral mentionne sur son site qu'en vertu de la loi, les provinces peuvent établir des restrictions supplémentaires, comme la restriction des lieux où l'on peut consommer et les façons d'en consommer. Dans son projet de loi 157 pour constituer la Société québécoise du cannabis, Québec aborde déjà la question. Il sera interdit de fumer du cannabis dans les tentes, les chapiteaux, les terrasses et les terrains sportifs, y compris les aires fréquentées par des mineurs. Ce serait plus avantageux que chaque ville, chaque municipalité puisse déterminer les lieux de consommation sur la place publique, poursuit la ministre Lucie Charlebois, auteure du projet de loi. Au Grand Prix de Trois-Rivières, notre marque de commerce, c'est l'accessibilité. On accepte les mineurs partout, donc ce sera interdit partout, explique le directeur général Dominique Fugère. Les sénateurs à Ottawa disent avoir besoin de plus de temps pour étudier la loi. L'entrée en vigueur et de la légalisation risque fort d'être repoussée de plusieurs semaines, ce qui veut dire qu'un des premiers festivals à gérer la nouvelle loi pourrait être le Festival Western de Saint-Tite. Avec ses 600 000 festivaliers, la direction du Festival Western entend se fier à la ligne directrice du regroupement des événements majeurs internationaux. Le REMI aimerait se doter d'une politique commune pour tous les événements, mais encore là, les municipalités pourraient en décider autrement. Fumer à l'extérieur du site. Allez consommer et revenez après. Je pense qu'on va bien s'organiser. Ce sera interdit sur la rue piétonnière lors du Festival de la galette de Sarrasin, a expliqué le maire de Louisville, Yvon Deshaies. L'agence QMI, dresse un bilan très, 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 très positif du tourisme à Montréal l'an dernier. Le titre, plus de 11 millions de touristes l'an dernier à Montréal. La hausse du tourisme d'agrément et d'affaires a profité à Montréal qui a accueilli 11,1 millions de visiteurs en 2017, une augmentation de plus de 5 % par rapport à l'année précédente. En plus d'être une année historique, 2017 aura été un véritable tremplin pour le rayonnement international de Montréal, a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, qui a dévoilé ses chiffres mardi. Le tourisme a été parmi les secteurs les plus porteurs de l'économie montréalaise. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce bilan, notamment l'ajout de nouvelles liaisons aériennes directes, les actions de démarchage sur les marchés de congrès et les efforts considérables qui ont été consacrés à la promotion de la destination Montréal, a-t-il ajouté. À Montréal, les dépenses touristiques ont augmenté de 9,7 % pour atteindre 4 milliards de dollars en 2017. Les touristes d'outre-mer étaient beaucoup plus nombreux au Québec qu'en 2016, avec une hausse de 11 %. Selon le Conference Board du Canada, le tourisme en provenance de la France, principal marché de la métropole, a augmenté de 9 %, mais ce n'est rien comparé aux Chinois, dont l'affluence a bondi de 33 % en un an. La Chine se positionne désormais au deuxième rang des marchés outre-mer de Montréal, devant le Royaume-Uni. Les arrivées en provenance des États-Unis ont également augmenté de près de 12 %. Aussi, la fréquentation du marché mexicain a cru de 50 %, ce qui fait croire à Tourisme Montréal qu'il s'agit du marché qui offre les meilleures perspectives de croissance.
Aimons-nous quand même la mort, unis sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai mon amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries. On tue sans réserve, par amour de sa patrie. On sans histoire, lorsque l'on vit sans aimer, l'amour c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit, resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie.
Diane Dufresne, qui reprenait ce grand succès d'Yvon Deschamps, « Aimons-nous », c'est tiré de l'album « Hommage aux chansons d'Yvon Deschamps » sur l'album aptement intitulé « Des chansons ».
On aborde maintenant la presse régionale et je commencerai en vous disant qu'ici à Canalem, on fait de la radio courageuse, de la radio qui n'a pas peur, de la radio qui affronte les vrais problèmes et qui ne craint pas la controverse. Se pourrait-il donc que ce soit au Saguenay qu'on mange le plus mal au Québec? Notez, je l'ai fait sous forme de question quand même parce que je veux bien être courageux, mais pas suicidaire. En fait, c'est un constat qui nous viendrait des pages du quotidien. Anne-Marie Gravel s'est penchée sur un rapport. Son titre, « Trop de malbouffe pour les jeunes ». Le nombre d'adultes qui consomment les portions recommandées en fruits et légumes est à la baisse. Les jeunes mangent fréquemment de la malbouffe dans les restaurants et moins de mères allaitent leurs bébés dans la région qu'ailleurs en province. Voilà quelques constats qui ressortent du portrait des habitudes alimentaires de la population régionale rendu public par le CIUS dans le cadre du mois de la nutrition. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite alimenter la réflexion en proposant une synthèse des habitudes alimentaires de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le document s'attarde sur 4 thèmes, soit la consommation de fruits et légumes, les conditions socio-économiques et l'insécurité alimentaire, la consommation de malbouffe, de grignotine ou de boissons sucrées et finalement l'allaitement maternel. Une autre nouvelle que j'ai vue rigoureusement partout dans la presse québécoise ce matin concerne une municipalité dont on n'entendait jamais parler jusqu'à hier, en fait, Grenville-sur-la-Rouge. Un texte que j'ai puisé finalement dans le droit, celui de Benoît Sabourin, intitulé « Poursuite de 96 millions contre une municipalité de 2800 habitants ». La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, porte d'entrée de la région administrative des Laurentides, limitrophe avec l'Outaouais, fait face à une poursuite historique à l'échelle québécoise, alors que la minière britanno-colombienne Canada Carbon lui réclame la somme de 96 millions en dommages et intérêts. La compagnie, basée à Vancouver, poursuit la petite localité d'à peine 2800 habitants, ainsi que tous les membres de son conseil municipal en cour supérieure, accusant ceux-ci d'avoir agi de mauvaise foi en contribuant au blocage d'un projet de mine de graphite et de marbre à ciel ouvert qu'elle souhaitait construire sur le territoire de Grenville-sur-la-Rouge. Canada Carbon allègue que la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, a récemment fermé l'étude de son dossier à la suite d'une résolution de non-conformité de zonage du projet Miller adoptée par le conseil actuel de Grenville-sur-la-Rouge le 12 décembre 2017. Or, l'entreprise fait valoir que l'ancienne administration municipale s'était montrée favorable au développement d'une mine au sein du petit village des Laurentides. C'est donc le conseil municipal élu en novembre dernier qui aurait modifié la position de la municipalité selon la société britanno-colombienne. On reprocherait à un politicien de changer d'idée, c'est nouveau. En plus de l'action déposée en cour supérieure, la minière vient de porter en appel auprès du tribunal administratif du Québec la décision de la CPTAQ de clore administrativement le dossier du projet Miller qui était dans les cartons depuis environ 2013. Le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Thomas Arnold, a brièvement réagi à la nouvelle lundi, limitant ses commentaires en raison des procédures judiciaires en cours. La municipalité a agi de bonne foi dans ce dossier, conformément à ses pouvoirs. Elle déplore de plus vivement que Canada Carbon puisse à la fois demander aux tribunaux la nullité de la résolution adoptée par la municipalité et faire reconnaître ses droits à exploiter son site et en même temps réclamer une somme de 96 millions. La municipalité entend faire valoir ses droits devant les tribunaux en temps opportun et se défendre vigoureusement, a-t-il affirmé au droit. Les tentatives de la société Canada Carbon pour fournir des faits ont été contrecarrées par une déclaration intentionnelle erronée dans le but de nuire à la société Canada Carbon. L'appel devant le tribunal administratif du Québec et le prochain procès contre Grenville-sur-la-Rouge et ses conseillers sont les premiers pas pour s'assurer que la direction défende les droits de la compagnie, de ses actionnaires et des citoyens de Grenville-sur-la-Rouge et des environs qui veulent le développement économique et l'emploi, a déclaré le 26 février dernier par voie de communiqué le directeur général de la minière Bruce Duncan. Cette poursuite intentée contre Grenville-sur-la-Rouge survient quelques jours à peine après que l'entreprise pétrolière Gastem ait été déboutée en cour supérieure par la juge Nicole Tremblay. Gastem réclamait un montant d'un million de dollars au village de Restigouche-Sud-Est en Gaspésie, ce qui l'aurait mis en faillite, en lien avec un règlement municipal pour la protection de l'eau adopté en 2013, lequel a forcé la pétrolière à cesser ses opérations de forage sur le territoire de la municipalité. We'll be right back. Un patient en CHSLD, ça vaut combien de patients ordinaires, entre guillemets? Eh bien, je vous réponds tout de suite, 6. C'est du moins ce qui ressort d'un texte de Jean-Marc Salvet du Soleil, prise en charge des patients en CHSLD, entente paraphée. Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont paraphé une entente censée régler le problème de la pénurie de médecins dans les centres d'hébergement. Cette signature confirme une information publiée par Le Soleil il y a 10 jours, indiquant qu'un accord de principe était intervenu pour la prise en charge des patients hébergés en CHSLD par les groupes de médecine familiale. L'acuité du problème est particulièrement importante dans la région de la capitale, où l'on comptait récemment quelque 275 lits de CHSLD en découverture médicale. La situation s'expliquerait par l'entrée en vigueur de la loi 20 favorisant l'accès à la médecine de famille. Elle a provoqué un départ des médecins des CHSLD vers les cliniques médicales. Avec l'entente paraphée vendredi, un patient en CHSLD bénéficiera d'une pondération de 6. Autrement dit, il comptera pour 6 patients pour le groupe de médecine familiale qu'il prendra en charge. L'entente assure une prestation de service dans les CHSLD. Au départ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec souhaitait que ce même patient compte pour 12. Il a été impossible lundi d'obtenir des détails quant au coût de la mesure. On parlait de Restigouche Sud-Est qui s'est opposé au forage il y a à peine quelques secondes. Eh bien, le Parti québécois, lui, demande qu'on soumette tout ça à un BAP, mais un BAP élargi. Exploration d'hydrocarbures, le PQ réclame l'intervention du Bureau d'audience publique en environnement, un texte de Gilles Gagné. 3 députés du Parti québécois réclament l'intervention du Bureau d'audience publique sur l'environnement afin d'étudier en profondeur tous les impacts que la filière pétrolière pourrait avoir en Gaspésie, où 3 emplacements, Haldimand, Galt et Bourque, sont l'objet de campagnes d'exploration d'hydrocarbures. Les députés Sylvain Gaudreau, critique de l'opposition en matière d'environnement, Sylvain Roy, député de Bonaventure, et Sylvain Rochon, porte-parole en matière de ressources naturelles, appuient notamment leur demande sur un sondage publié à la fin de 2017 en statuant que près de 90 % des Gaspésiens souhaitaient un BAP générique, à savoir que cet organisme examine l'impact de la filière pétrolière sous tous les angles, comme c'est arrivé en matière de gaz de schiste et d'énergie nucléaire. Plusieurs enjeux sont au cœur des préoccupations des Gaspésiens. Les retombées économiques pour la Gaspésie, les effets sur les autres secteurs d'activité comme le tourisme, les impacts de la fracturation hydraulique ou d'un autre procédé chimique similaire sur l'eau potable et sur l'air, la contribution des projets aux émissions de gaz à effet de serre, etc. Pour gagner la confiance des gens, il est indispensable de leur fournir une information complète et objective et de leur donner la possibilité de s'exprimer, affirme Sylvain Gaudreau. Sylvain Rochon ajoute que les Gaspésiens ont été échaudés par le gouvernement de Philippe Couillard parce qu'il a adopté la loi 106 sur les hydrocarbures sous le bâillon et d'autres règlements sans débat public. Le Parti libéral et la CAQ approuvent la fracturation hydraulique sans connaître les impacts. Les citoyens ont pourtant le droit de savoir si l'utilisation de cette technique et de procédés semblables est courante chez eux, souligne le député de Richelieu. À Sherbrooke, l'Université Bishop a un projet intéressant pour ses étudiants autochtones, un espace pour les étudiants autochtones à l'Université Bishop. Isabelle Pion, La Tribune. L'Université Bishop souhaite se doter d'un espace destiné aux étudiants autochtones. Elle caresse le souhait de rénover le bâtiment Divinity House, fermé depuis 2014 en raison de problèmes structurels importants. Le projet, évalué à quelques millions de dollars, en est à ses balbutiements. En plus de répondre à la demande des étudiants autochtones, il pourrait aussi éviter la démolition du bâtiment érigé en 1891. Nous travaillons sur l'idée première de créer un lieu de rencontre pour les étudiants autochtones. Nous avons demandé de préparer une première esquisse de ce que ça pourrait être, explique le principal et vice-chancelier de Bishops, Michael Goldblum. Dans The Bishops Magazine, On apprend qu'un rapport a conclu qu'il en coûterait entre 6 et 7 millions afin de rénover le bâtiment. Si l'institution ne trouve pas les sommes nécessaires provenant d'un financement externe, il pourrait être démoli. Un mot enfin qui nous vient de la région de Trois-Rivières où le Nouvelliste, et ça se passe un peu partout au Québec d'ailleurs, nous dit que des cliniques d'optométrie sont débordées. Plusieurs optométristes de la région sont débordées et ne peuvent plus prendre de nouveaux rendez-vous depuis l'annonce de leur retrait à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce retrait a été signé par 90 % des cliniques d'optométrie et touchera notamment les moins de 18 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu qui sont encore à ce jour couverts par la RAMQ. Restez avec nous, on aborde les nouvelles culturelles dans quelques instants.
Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh while windmill winds of the moulin shelter you. Voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs.
Entendre Rufus Wainwright qui reprenait la complainte de la butte.
Actualité culturelle et je prends la liberté de profiter d'un texte de Sophie Ouimet pour vous demander si vous avez un sous-sol, un salon pas redécoré, un chalet où traînerait quelque chose qui pourrait être soit horrible, soit de l'art, mais vous n'êtes pas sûr. Eh bien, sachez qu'il y a peut-être une solution pour ça. La chasse aux œuvres d'art est ouverte, c'est le titre de Madame Ouimet. Le Consigner Canadian Fine Art, établi à Toronto, parcourt le pays justement pour découvrir ses trésors méconnus ou oubliés. Mardi, des représentants de l'entreprise seront de passage à Montréal et ils invitent les gens à se rendre au Club Atwater pour faire évaluer les œuvres d'art qu'ils ont à la maison. L'exercice peut créer des petites comme des grosses surprises, comme les gens du Consigner l'ont constaté l'été dernier pendant leur tournée pan-canadienne qui les a menés dans 10 villes. À Calgary, ils ont découvert une toile de la peintre canadienne Emily Carr qui a ensuite été vendue aux enchères à 276 000 $. À Montréal, les évaluations auront lieu entre 10 et 16 heures et sont gratuites, mais les organisateurs invitent les gens à prendre rendez-vous avant de se présenter. Polémique au Grand Ballet canadien, un texte de Catherine Lalonde et Annabelle Caillou intitulé « Un faux pas au Grand Ballet canadien ». Une ode à la femme au sortir de l'an « Moi aussi ». L'idée aurait pu être bonne, mais la programmation de la 62e saison des Grands Ballets canadiens de Montréal fait controverse en présentant la femme comme symbole, thème et objet de séduction, alors qu'une seule signature chorégraphique féminine en fait partie. La vision de la féminité dans les mots comme les photos y est jugée par plusieurs comme déconnectée de la discussion sociale, rétrograde, macho ou opportuniste, au point que danseurs et observateurs des grands ballets brisent pour marquer leur désaccord le code du silence qui régit encore le monde du ballet. La saison 2018-2019, présentée à l'encre rose comme une ode à la femme, ne comptera qu'une seule d'entre elles, Cathy Marston, sur les 6 spectacles et 8 chorégraphes annoncés. Pour la soirée femmes, les œuvres seront signées par 3 hommes, Douglas Lee, Mehdi Walersky et Marwick Schmidt. En réaction, une pétition a été lancée par la chorégraphe torontoise Kathleen Rea sur les médias sociaux. Nous vous demandons d'ajouter une chorégraphie féminine au programme Femmes et de laisser une femme raconter sa propre histoire à travers la danse, lit-on dans la missive qui avait récolté plus de 2000 signatures lundi au moment où ces lignes étaient écrites. Je sais que je commets un suicide professionnel si j'émets une opinion négative envers les grands ballets canadiens à visage découvert, a indiqué une des personnes interviewées qui, comme tous ceux qui ont parlé au Devoir et sont encore en relation d'affaires avec la compagnie, a demandé l'anonymat par crainte de représailles. Les grands ballets canadiens sont encore teintés de cette époque où la soumission demandée aux danseurs était quasi totale. Nous n'avons pas la permission de commenter ni de parler de manière négative de la compagnie, sans quoi nous risquons d'être pénalisés, avance un danseur. Ça ne m'a jamais dérangé auparavant, car j'aime profondément les grands. Mais je suis embarrassé de voir la direction que nous prenons. Nous étions un des leaders du monde de la danse et aujourd'hui nous donnons l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Le directeur artistique des Grands Ballets canadiens depuis juillet 2017, Ivan Cavallari, a affirmé au Devoir avoir été surpris par la pétition. On ne fera pas de dévoilement de la programmation maintenant, mais des négociations avec des chorégraphes femmes sont en cours, précise-t-il, rappelant les présences de Bridget Brainer et d'Annabelle Lopez-Ochoa dans la saison 2017-2018. C'est un dialogue qu'on commence maintenant et qui va continuer, indique celui qui a pris l'initiative de rencontrer prochainement l'auteur de la pétition. Il défend par ailleurs la présentation de sa saison. Sur la photo de la soirée femme, il y a 3 hommes entourés de glace, décrit M. Cavallari. La glace, c'est l'eau, c'est la vie. Et la vie nous amène à penser la femme non pas comme une femme fatale, mais simplement comme une femme, comme dans les sociétés autochtones, où elle avait la responsabilité de garder l'eau, une responsabilité de vie, une figure centrale dans les sociétés. Je ne m'offusque pas de voir des créateurs masculins dans un hommage fait aux femmes, explique de vive voix Kathleen Rea. Je suis offensée que les femmes soient exclues de la conversation. D'autant que le milieu de la danse, et particulièrement du ballet, ne serait pas exempt de sexisme, selon Gabrielle Lambe, ex-soliste des Grands Ballets canadiens. Les hommes ont la vie beaucoup plus facile en ballet parce qu'ils sont plus rares. Ils ne sont pas contraints à la même rigueur d'entraînement. Émilie Durville, ex-première soliste partie en 2013, poursuit Dans le milieu professionnel, on ne dira jamais à un homme de faire plus de pompes pour gagner du muscle et de mieux porter sa partenaire, mais on dira à une femme de maigrir pour être portée plus facilement. Les carrières des hommes sont moins marquées par la compétition, complète Madame Lamb. Ils sont plus confiants en position d'autorité. Des positions qu'ils occupent plus souvent. Depuis sa fondation en 1957 par Ludmila Shirayev, dont le surnom affectueux était Madame, les Grands Ballets ont compté 4 directrices artistiques et 7 directeurs artistiques, en comptant chacun des membres des co-directions. Sur les 332 chorégraphies du répertoire, 52 étaient signées par des femmes, 269 par des hommes, 7 étaient des créations mixtes et 4 créateurs n'ont pu être trouvés dans notre recherche de données. Nouvelle tuile pour Charles Dutoit. Dans la presse, on nous apprend « L'Orchestre symphonique de Boston juge crédibles les allégations contre Charles Dutoit. » L'Orchestre symphonique de Boston affirme que le réputé chef d'orchestre Charles Dutoit a agressé sexuellement au moins 4 femmes ayant travaillé pour l'organisation dans les années 80 et 90. L'orchestre a annoncé vendredi qu'une enquête indépendante avait déterminé que les allégations de l'ancienne stagiaire Fiona Allen contre le chef d'orchestre suisse étaient crédibles. L'enquête a aussi jugé crédibles les allégations faites par 3 autres femmes dont l'identité n'a pas été révélée. Une porte-parole de M. Dutoit n'avait pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. L'Orchestre symphonique de Boston figure parmi plusieurs orchestres ayant coupé les liens, avec M. Dutoit après que l'Associated Press eut fait état des allégations de Mme Allen et de plusieurs autres femmes. M. Dutoit, qui a épousé la violoniste Chantal Juillet en 2010, a été directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal de 1977 à 2002. Madame Allen allègue que M. Dutoit l'a poussée contre un mur et a placé une main sur ses seins dans sa loge à Tanglewood, la maison d'été de l'orchestre, en 1997. M. Dutoit était depuis longtemps un chef d'orchestre invité auprès de l'Orchestre de Boston. Une critique, celle de Christian Saint-Pierre, et à propos de la pièce « La détresse et l'enchantement », le titre « Chercher sa voix ». Paru chez Boréal en 84, soit un an après la mort de l'auteur né en 1909, « La détresse et l'enchantement » retrace les années de formation de Gabriel Roy, depuis son enfance manitobaine jusqu'à son retour d'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. De cette somme, vibrante mémoire d'une femme à la découverte d'elle-même, le solo élaboré par Marie-Thérèse Fortin et Olivier Quémède ne donne malheureusement qu'un aperçu. Qui trop embrasse, mal étreint, serait-on tenté de dire. Bien entendu, pour en arriver à un spectacle de plus ou moins 90 minutes, le tandem a dû procéder à des suppressions draconiennes, mais il reste que les sauts dans le temps sont nombreux, vertigineux et parfois brusques. Si bien qu'on se demande s'il n'aurait pas été plus judicieux de circonscrire une étape dans le parcours initiatique de Gabriel Roy, quitte à y insérer quelques retours en arrière, plutôt que de chercher à rendre justice à tout le cheminement. Autant d'événements, autant d'époques, autant d'états d'âme. Pour qui a eu le bonheur de lire l'autobiographie, il est certainement frustrant de voir apparaître aussi fugitivement les différentes incarnations de la narratrice. L'enfant fragile, l'étudiante douée, l'enseignante affectueuse, la voyageuse enthousiaste, la comédienne effrayée, l'amoureuse transie et l'orpheline endeuillée. La nature elliptique du montage a bien entendu des incidences dramaturgiques, donnant à la représentation un caractère expéditif, sans parler des superbes pages dont nous sommes privés, mais elle nuit surtout à la construction du personnage, à la pleine restitution de cette psyché unique qui est au cœur de l'œuvre qui en est la raison d'être. Pour aujourd'hui, je n'étais encore capable que de faibles récits où l'on aurait sans doute bien en vain cherché trace de la détresse et de l'enchantement qui m'habitent depuis que je suis au monde et ne me quitteront vraisemblablement qu'avec la vie. Pourtant, l'oiseau, de très bonne heure à ce qu'il semble, connaît déjà son chant. Dans cette phrase, la dernière du livre, on trouve l'essentiel de l'héroïne, son insécurité dévorante et sa mélancolie chronique, puis sa justesse d'observation et sa grande sensibilité, mais surtout son indéniable vocation, son appel irrépressible pour l'écriture. À cette femme paradoxale en perpétuelle quête de liberté, Marie-Thérèse Fortin offre toute sa conviction. Sur le bord d'un fleuve imprévisible, sous un ciel changeant, elle donne à son personnage une humanité poignante. Arpentant la batture avec détermination, la comédienne incarne tout naturellement les différents âges de Gabrielle, mais aussi ses nombreux interlocuteurs, notamment ceux de Paris et de Londres, pour le moins truculents. Sa performance vaut à elle seule le détour. Alors, si ça vous intéresse, La détresse et l'enchantement, le texte Gabrielle Roy, montage Marie-Thérèse Fortin et Olivier Quémède, mise en scène Olivier Quémède, une coproduction du Théâtre du Nouveau Monde, du Théâtre du Trident et des Trois Tristes Tigres. Au TNM jusqu'au 10 mars, puis au Grand Théâtre de Québec durant la saison 2018-2019.
J'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je lis comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis. Moi je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Des fois je déjoue et des fois je délaisse, et souvent je lousse la laisse. Et le temps passe et des fois me dépasse et me perd dans l'espace, et des fois
Vincent Vallière et le temps passe.
Alors, pour terminer cette émission, quelques nouvelles peut-être un peu plus légères. Je vous parle d'abord de Frances McDormand qui a remporté un Oscar dimanche soir. Elle a, dans son allocution, fait allusion à l'inclusion Rider. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le titre de Cédric Bélanger d'ailleurs. Quelle est cette mystérieuse inclusion Rider? Frances McDormand a utilisé la vitrine qui lui était offerte quand elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dimanche soir pour faire la promotion d'une clause contractuelle favorisant plus de diversité sur les plateaux de tournage. J'ai deux mots pour vous ce soir. Inclusion Rider, a dit l'actrice, décorée pour son rôle dans trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri, devant un auditoire qui ne savait pas du tout de quoi elle parlait. Il s'avère que cette fameuse Inclusion Rider, ou clause d'inclusion, a été créée par une professeure de l'Université de la Californie du Sud en 2016. En gros, elle permet aux acteurs d'exiger, lorsqu'ils négocient avec un producteur, une représentation plus juste des minorités, femmes, groupes ethniques, handicapés et LGBTQ2, au sein de la distribution d'un film, devant et derrière la caméra. Citée par le New York Times, la créatrice de cette clause encore méconnue, Stacey Smith, a indiqué que l'objectif était que le monde à l'écran ressemble à celui dans lequel nous vivons. En moyenne, a-t-elle dit lors d'une conférence TED, un film comporte 40 à 45 personnages qui parlent. Je dirais que seulement 8 à 10 d'entre eux sont réellement importants dans l'histoire. Pour les 30 rôles restants, il n'y a pas de raison que ces personnages mineurs ne puissent pas refléter la démographie du lieu où l'histoire se déroule. McDormand, qui n'a appris l'existence de cette inclusion Rider que quelques jours avant la cérémonie des Oscars, est devenue la première personnalité de Hollywood à en faire la promotion publiquement. D'autres, comme l'actrice, également oscarisée Brie Larson, ont également indiqué qu'elles allaient adhérer au mouvement. Alors, il y a un journaliste né à Montréal qui a fait carrière aux États-Unis et en Europe qui revient à Montréal et il sera le tout premier correspondant du New York Times et il demande vos idées. Le New York Times veut connaître les incontournables du Québec, un texte de Marianne Bergeron-Courteau publié dans le Journal de Montréal. Pour la première fois en plus de 70 ans, le New York Times a dépêché un correspondant à Montréal. Originaire de la métropole, mais ayant quitté sa ville natale il y a une trentaine d'années, Dan Bilewski demande l'aide des Québécois pour apprendre à redécouvrir la belle province. Depuis le 12 mars, le journaliste se lancera dans un grand road trip où il visitera Montréal, Maniwaki, Hérouville, Québec et Saguenay. Il relatera ses aventures et découvertes auprès des lecteurs du prestigieux quotidien new-yorkais. D'ailleurs, dans un article, il lance un appel aux résidents des quatre coins du Québec afin d'obtenir des conseils pour l'aiguiller dans les endroits incontournables à visiter. Quels sont les endroits connus et méconnus que je devrais visiter? Quels sont les quartiers où je devrais aller? Quelles sont les questions que je devrais poser? Et très important, où devrais-je boire et manger pour bien saisir la richesse de la culture culinaire de la province, demande-t-il. Une chose est sûre, ce projet permettra de faire découvrir la culture québécoise aux Américains. Et une autre chose est sûre, je suis jaloux de son travail. Bonne nouvelle pour des étudiants de la côte ouest, puisque, et c'est le titre, perdu en mer, un voilier robotisé rentre au bercail un an plus tard. Il a perdu sa voile et récolté quelques égratignures, mais un voilier robotisé canadien est finalement rentré chez lui après avoir été perdu en mer pendant plus d'un an. Le voilier autonome, Sailbot en anglais, est de retour à Vancouver après avoir été retrouvé au large des côtes de la Floride en décembre. Les étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, avaient toujours gardé espoir de le revoir, a dit leur capitaine Serena Ramley. On savait que l'océan est très grand, mais les courants devaient le pousser vers la terre ferme quelque part, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe ou en Afrique, a-t-elle dit. Le groupe est simplement heureux que son bébé se soit retrouvé sur le bon continent, a-t-elle ajouté. Comme quoi il y avait des cibles quand même très ambitieuses, l'équipe a mis plusieurs années à concevoir et à construire ce voilier qu'elle a baptisé Ada, en hommage à la mathématicienne Ada Lovelace. Le projet s'est étiré sur plusieurs années et des centaines de personnes ont donc joué un rôle dans sa création. Le voilier était parti de Saint-Jean à Terre-Neuve en août 2016 pour un périple qui aurait dû prendre 3 semaines. Il s'est bien tiré d'affaire dans les eaux côtières, mais les problèmes ont commencé quelques jours après son départ, à environ 700 km au large, a indiqué Mme Ramley. Et il est disparu après environ 1200 km. L'équipe croit qu'une vague a alors arraché presque tout son gréement, emportant du même coup la plupart des capteurs. Un navire de recherche a finalement repéré le voilier en décembre 2017 et Ada est rentrée à Vancouver il y a 2 semaines. C'est assez fantastique de voir qu'elle est de retour. Elle est arrivée tôt le matin et tout le monde était en classe et j'étais seul ici, mais chacun est passé quand il a pu, à raconter Mme Ramley. C'est vraiment extraordinaire de voir dans quel état elle se trouve. Elle a traversé quelques ouragans. La coque du voilier est intacte, mis à part quelques égratignures qui vont jusqu'à la fibre de carbone. Même si elle ne s'est pas rendue à destination, Ada a établi un nouveau record pour la plus grande distance parcourue par un navire automatisé lors d'une traversée de l'Atlantique, selon UBC. L'équipe a maintenant l'intention d'examiner le voilier pour en tirer des leçons en vue du prochain projet. Les étudiants veulent inscrire un voilier robotisé à une course de 3714 km entre Victoria et Maui en 2017 ou 2020. Normalement, ce sont des marins humains qui participent à cette course, mais nous avons communiqué avec des gens qui y ont déjà pris part. Une fois que nous aurons fini ADA 2.0, nous allons l'amener au large des côtes de l'île de Vancouver pour affronter des vents puissants, a expliqué Mme Ramley. Parce que c'est un projet parascolaire, nous n'avons pas d'échéancier rigide, mais on vise 2019 ou 2020. Nouvelle fusillade aux États-Unis et le prétexte semble mince, je dirais. Des coups de feu pour du papier hygiénique. Un texte de Michael Labranche. Des coups de feu ont été tirés alors que 2 hommes se seraient disputés pour du papier hygiénique au Missouri. C'est ce que le chef de la police de Caruthersville, Tony Jones, a déclaré après avoir visionné des images captées par la caméra de surveillance. Au moment de la dispute à l'intérieur du Dollar General, un des 2 hommes a pointé l'autre en formant un fusil avec sa main. Le même homme a finalement ouvert le feu avec un vrai pistolet quand les 2 individus sont sortis du magasin. Le principal suspect s'appelle Travis Lee. Personne n'a été blessé. Plusieurs vies ont été mises en danger. On veut cet homme hors des rues. La sécurité des citoyens est la priorité du service de police, a affirmé Jones. On ne sait toujours pas s'il y avait un rabais sur l'article en question. Alors, on a souvent l'impression que le pétrole, ça vient, bon, d'Alberta, ça vient du Moyen-Orient, ça vient du Venezuela. Ce qu'on sait moins, c'est l'importance des États-Unis dans l'industrie pétrolière. Et la Associated Press nous le rappelle, les États-Unis répondront à 80% de la demande mondiale en pétrole. La production de pétrole des États-Unis répondra à environ 80% de la demande mondiale au cours des 5 prochaines années, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'organisation prédit que l'augmentation de la production américaine compensera le fléchissement de la production de l'OPEP. L'agence parisienne a indiqué lundi, dans son rapport annuel sur le marché du pétrole, que l'explosion de la production américaine est le changement le plus important à être survenu depuis le rapport de l'an dernier. Alors, vous l'entendez, l'indicatif nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. Je m'en voudrais de la conclure sans remercier Jean-Sébastien de la Liberté qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans peut-être 10 ou 15 jours et ce micro revient à sa titulaire dès demain. Hélène sera là.